deux choses que j'ai pas, que je ne ferai pas. Donc ce matin, j'ai pas pu préparer la vidéoprojection. Donc la prière de Claude, c'est que faire appel à votre mémoire. Donc il y aura pas le support visuel. Bon, c'est un seul verset. Donc ceux qui ont des Bibles ou qui veulent suivre, ce sera un seul verset. Donc facile à retenir. Et ce ne sera pas un verset de Noël, même si on peut trouver des correspondances avec le thème de Noël, je pense. Voilà. Mais avant de vous ouvrir. Vous faire ouvrir vos Bibles à cet endroit-là. Il y a quand même un petit rapport avec Noël. Il y a quand même un rapport avec Noël, quand même, indirect. Puisque j'avais appelé cette prédication qui m'a été inspirée par une lecture dans un magazine du Sel. Ça s'appelle Offrir de nouveaux départs. Est-ce que c'est un principe biblique? Offrir de nouveaux départs. On n'est pas loin de Noël, on n'est pas loin de la nouvelle année, on s'en approche. Et ça me fait toujours penser, peut-être dû à mon passé enfant, que cette période de Noël, c'est toujours la période où finalement on reçoit beaucoup dans les boîtes aux lettres des appels aux dons, à la générosité, penser aux pauvres, aux personnes isolées. C'est peut-être ça qui m'a inspiré, de vous parler de ce proverbe. Donc je vous invite à regarder dans vos Bibles ou. C'est le Proverbe 19, verset 7, et moi je le lis dans la français courant, donc Proverbe 19, verset 7. Le pauvre est détesté par ses propres frères. À plus forte raison, ses amis l'abandonnent-ils. Lorsqu'ils voudraient leur parler, ils ne sont plus là. Ce verset donc, souligne avec réalisme un aspect un peu ignoré, un peu pas vraiment négligé, mais pas beaucoup peu souligné de la pauvreté. C'est que c'est l'isolement qui renforce la dureté de celle-ci. Cet isolement peut même aller jusqu'à la mise à l'écart. Alors j'ai vu deux aspects dans cette pauvreté pour introduire. D'abord, la perte d'autonomie économique est liée à la restriction de son réseau relationnel. Donc, restriction du réseau, ça veut dire qu'en gros, le pauvre aujourd'hui, c'est celui qui n'a pas ou peu de réseau. Donc, le réseau social n'existe pas. Réseau familial, réseau amical, réseau associatif, réseau professionnel, etc. Et sur le plan professionnel, justement, je le constate au travail. Je travaille pour un organisme de formation, qu'avec certains stagiaires, un des principaux freins, alors frein, c'est-à-dire blocage, vers l'insertion sociale et économique, c'est souvent l'isolement géographique. Je pense à, on va l'appeler R, je pense à R, ce stagiaire que j'ai actuellement, qui habite à 28 km du centre de formation, au fin fond d'une campagne, et qui a pu bénéficier de l'aide par une association de son village qui lui a prêté un véhicule sans permis. L'isolement est donc territorial, mais pas seulement. Il est avant tout, comme je l'ai dit, relationnel. Le manque de moyens pour s'autonomiser au moment où le pauvre en aurait le plus besoin, aurait le plus besoin des autres. En clair, le manque de réseau. C'est le manque de recommandations. Le pauvre n'a pas ou peu de personnes pour le recommander. Et deuxième point que je voulais souligner en introduction, c'est que l'isolement peut se définir vraiment comme un manque total ou presque de contact social entre une personne et la société. Et que cela peut conduire à la mort sociale, au désespoir et à la mort tout court. L'isolement peut donc produire cette désespérance sociale et l'isolement met à mal l'idéal d'une société solidaire et juste. Mais par-delà le désespoir, je relis dans une autre version ce verset. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui ? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Nos réactions face à cette situation, face à ce verset, peuvent être de plusieurs ordres. J'en ai compté trois, dont la dernière me paraît propre aux croyants, en particulier dans les milieux chrétiens évangéliques, mais pas exclusivement. La première réaction, c'est de serrer les dents et apprendre à ne compter sur personne d'autre que nous-mêmes. Quand on veut, on peut. Cette attitude est teintée de volontarisme, un peu d'individualisme aussi. Elle peut aussi tendre à l'activisme. Je donne un témoignage personnel que j'ai déjà dû donner il y a quelque temps. J'ai effectué il y a quelques années une reconversion professionnelle. J'avais rédigé, je crois, une quarantaine de lettres de motivation, sachant qu'on y passe, dans mon cas, 2 à 3 heures par lettre, faites le calcul. Et certains en écrivent des centaines. Chercher du travail, c'est du travail. Donc, le côté volontariste. C'était sans doute mon cas. La deuxième tentation, elle est un peu symétrique, quand ça ne marche pas comme on veut, c'est de désespérer et de céder au fatalisme. Ah, cela devait m'arriver. Si ce fatalisme représente peut-être une forme de protection contre la souffrance, il peut aussi déresponsabiliser la personne en lui ôtant sa capacité d'action. Parce que le fatalisme a son acolyte, l'inaction, justement. Et forcément, elle conduit à l'inactivité, à la passivité, parfois qui nourrit une rancœur. On n'a rien fait pour moi. Le troisième risque, comme je le disais plus haut, il vise spécifiquement les milieux croyants, en particulier les chrétiens. Ce serait de nous bercer d'illusions que ce genre de choses ne tourneront pas si mal pour nous. Lorsque les plans A, les plans B, les plans C ont échoué, il reste le plan D. D comme Dieu. Alors parfois, s'il y a du vrai dans cette assertion, hein, il y a quand même un petit côté, version chrétienne, de voir la vie du bon côté. Comme l'expliquent Timon et Pumba. Qui connaît Timon et Pumba? J'en vois quand il y en a qui connaissent Timon et Pumba. Je vois que plusieurs connaissent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Timon et Pumba, je rappelle, j'aurais voulu vous montrer la photo, les facétieux personnages du dessin animé de Walt Disney, les Rois Lions. Ils chantent quoi? Hakuna Matata, évidemment. Et Hakuna Matata est une expression employée dans la langue Swahili, qui signifie littéralement « pas de problème, pas de souci ». En gros, ça correspondrait en version latin « carpe diem », en français « cueille la rose de chaque jour ». Et puis, pour faire plus moderne, et plus « the Jones », « YOLO ». Il y a un ou deux Jones par ici qui sont à nous dire ce que veut dire « YOLO ». Allez, je te laisse traduire « YOLO ». Alors, ça veut dire « on y va ». Alors, c'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. « You only live once ». On ne vit qu'une fois. YOLO. Et c'est souvent utilisé sur les réseaux sociaux et ça revient à une signification similaire. Voilà, en gros, ces façons de dire « finalement, ça ira bien pour nous ». YOLO. Alors, cette foi magique... Peut-être, parfois, une foi à l'eau de rose, peut-être, en un Dieu qui nous gardera de tout mal, me paraît un peu trop optimiste pour deux raisons. La première, que c'est une illusion qui ne nous est pas, sans doute pas soufflée par l'Esprit Saint, mais par Satan lui-même. La preuve, dans les Écritures. Le diable, la serre, cette
cette forme-là de tentation,
il la sert au Fils de Dieu au désert. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, au verset 9 à 12, il est dit « Le diable conduisit Jésus encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » L'autre raison, c'est que notre expérience contredit notre espérance que les choses ne tourneront pas si mal pour nous. Or, une personne sur 10, en France au moins en tout cas, vivrait dans l'isolement. Et n'oublions pas que le dernier isolement, c'est la mort. Alors, la juste perspective, me semble, est que personne n'est immunisé contre la réalité du malheur dans un monde déchu. Oui, le Seigneur est grand, on a eu des témoignages de guérison, d'intercession, mais on peut quand même se poser la question. Pourquoi, suite à la chute, elle-même consécutive à la désobéissance d'Adam et Ève, désobéissance et chute que la Bible appelle péché, pourquoi donc alors Dieu n'a-t-il pas supprimé immédiatement, simplement et définitivement le mal, la guerre, la pauvreté? C'est le réalisme persistant du mal qui fait de ce mal un mystère opaque, mais qui fait aussi la réponse de Dieu. Celui-ci a commencé à écrire une histoire qui inclut le mal, sans lui laisser le dernier mot. Une histoire que Dieu a écrite et dont on a tourné quelques pages ce matin. Écoutez le chant des anges. Une histoire du salut en Jésus le Messie, comme pivot de l'histoire des hommes. C'est l'horizon de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et c'est aussi l'horizon indépassable de l'attente de son peuple, nous l'Église, avec un grand E, toutes les Églises, et des croyants de son temps. Et nous attendons encore le dernier acte de son dévoilement, le retour du Christ. Alors, par-delà le désespoir, il y a le salut. On l'a chanté plusieurs fois. Hosanna, je crois, veut dire Dieu sauve. Le salut est un moteur d'engagement social. Ce que Dieu nous demande de faire face à la pauvreté s'inscrit dans une démarche analogue. Je m'explique. Premièrement, le salut inauguré en Jésus implique des scénarios qui incluent des recommencements. Les scénarios qui incluent des recommencements. Et le témoignage biblique montre, par exemple, qu'un Hébreu, esclave, pouvait être réduit à la pauvreté et devenir esclave pendant 6 ans. Mais ensuite, il devait être libéré. Le texte dit, un texte dans le Deutéronome, au chapitre 15, verset 12, « La 7e année, tu le renverras libre chez lui. » Et le texte est direct. J'ai insisté sur le « tu » parce qu'il ne s'adresse non pas à une collectivité, mais à chacun des maîtres d'esclaves. « Tu ne le renverras pas à vide, mais avec de quoi redémarrer une entreprise, s'autonomiser, bétail, produits de la terre. » Mais pourquoi faire cela ? Pourquoi Dieu ordonne-t-il cela? Le verset 14 nous le dit. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. Le souvenir du salut est une source d'engagement. Deuxième raison pour laquelle le salut est un moteur d'engagement, la possibilité d'une issue permet de nouveaux départs. Savoir que l'épreuve ne durera pas toujours, eh bien, ça évite le désespoir, puis ça adoucit la peine, ça suscite le courage, et puis ça emporte l'adhésion de la personne à son propre relèvement. Pensons à la loi du jubilé, qui, selon le livre du Lévitique, au chapitre 25, eh bien, cette loi autorisait les propriétaires qui avaient vendu leurs terres, aléas climatiques, mauvaise gestion, enfin, peu importe la raison. Eh bien, cette loi donc autorisait les anciens propriétaires qui avaient perdu leurs terres à les réintégrer l'année du jubilé, donc au plus tard, 50 ans après. Donc un recommencement était possible, même si 50 ans, ça paraît long. Mais ne nous méprenons pas sur le sens de cette possibilité de faire restart, de redémarrer. Mais allons plus loin. Il ne s'agit pas simplement de remettre simplement les compteurs à zéro. Il n'est pas juste question de purger une peine, d'être jugé en faillite personnelle. Face à un ennemi plus grand, plus fort, la pauvreté, un géant effroyable et transgénérationnel. Il y a des générations de pauvres, des gens qui n'arrivent pas à sortir de la pauvreté depuis 3-4 générations. La réalité du salut est inaugurée en Jésus, parce que lui, c'est le vainqueur. Et c'est le riche, puisque la terre entière et ses riches, toutes ses richesses lui appartiennent. Il s'est fait victime et il s'est fait pauvre. On l'a chanté sur la croix. Et il n'est plus sur la croix, il est le Seigneur. Et par là même, sa victoire laisse surgir une issue. Il a payé la dette. Il nous a rachetés d'un mal plus grand, plus nocif et encore plus corrosif que la pauvreté. Le péché et ses conséquences, des conséquences pas seulement décennales, mais éternelles. La séparation d'avec Dieu pour nous réintroduire dans son domaine, le ciel. Je relis le verset. Le pauvre est détesté par ses propres frères. À plus forte raison, ses amis l'abandonnent-ils? Lorsqu'il voudrait leur parler, plus personne. Alors on revient à ce texte qui nous fait un peu redescendre et qui nous incite à la prudence ou au moins au réalisme. Il nous invite surtout à prendre en compte le risque toujours présent en nous, chez nous, ce risque hideux et méprisable, mais bien réel, que nous soyons ce type de frère, entre guillemets, d'amis de ce pauvre, que nous le délaissions, l'ignorions, que nous détournions le regard du pauvre. Laissons-nous avertir par ce texte de ne pas nous comporter comme les frères, les amis de cet indigent. Car, nous dit un autre verset des Proverbes, chapitre 17, verset 17, facile à retenir. L'ami aime en tout temps, et un frère est là pour aider dans la détresse. Je vous lis un témoignage à la fin, mais pour conclure, une actualisation me paraît indispensable. aujourd'hui. La véritable richesse, 3500 ans après la sortie d'Égypte, ce n'est pas la terre. La véritable clé de la rupture de l'isolement et de l'insertion socio-économique me semble être le tandem éducation-formation. Je m'explique. Aujourd'hui, la connaissance est sans doute la principale source de richesse. Sans trop appuyer jusqu'à dire, comme le clament certains, que nous sommes entrés aujourd'hui dans l'ère de la valorisation des connaissances, force nous est de reconnaître que la clé des études, le pilotage de l'orientation, de plus en plus fin et précoce, sont des atouts majeurs, sinon les atouts majeurs, dans un monde postmoderne pour accéder à des emplois solides et durables. L'accès à l'éducation, la formation, l'aide à l'entrepreneuriat sont les clés d'un soutien renouvelé et prophétique qui actualise les commandements du Christ. Aimer son prochain comme soi-même. L'esprit de la loi y fait écho. Lévitique 25, verset 35. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. L'esprit de la loi, donc, ce n'est pas seulement d'aider, mais aussi de fortifier, réinsérer dans la perspective de la vie en société avec toi, avec moi. Il suffit d'une impulsion bien placée, comme au triple saut. Je finis par un témoignage. Dommage, j'ai pas les photos. On voit, c'est une machine à coudre, mais une machine à coudre manuelle. Voilà. Et on voit le résultat final. Alors, c'est un peu petit. On voit les produits fabriqués grâce à la machine. Les vêtements les vêtements à l'aide de cette machine. Bref, le contexte. L'Afrique subsaharienne est le contexte où on peut situer la catégorie des femmes parmi les pauvres et les plus pauvres parmi les plus pauvres. À cause du genre, du fait d'être femmes, elles sont souvent désavantagées dans ce contexte où elles ne peuvent prétendre, comme les hommes, à développer une activité rémunératrice. Comme il est en résumé, là-bas, ce sont les maris qui ont des petits commerces. Les femmes, elles, restent à la maison. Donc, pour certaines, lorsqu'elles viennent d'un milieu pauvre, elles ne sont pas toujours considérées comme un bon investissement. Dès l'enfance, les familles préfèrent envoyer les garçons à l'école plutôt que les filles. Adulte, elle doit faire vivre sa famille avec le peu que son mari lui donne. Et si elle veut développer une activité rémunératrice, les banques lui ferment la porte, estimant qu'elle manque de crédibilité et de stabilité financière. À force d'entendre ces refus, ces femmes ont fini par croire qu'elles n'ont pas de valeur, pas de voix, et qu'elles n'ont rien ou peu à apporter. Comment donc, dans cette conception des choses, peuvent-elles avoir l'espoir d'un avenir meilleur, d'un recommencement? Donc là, l'importance du sel, de tout le travail qui est effectué par les partenaires, on nous a encore parlé du sel ce matin, à travers le travail fait par plusieurs, c'est que ici et là, dans plusieurs pays, on constate que ces femmes n'ayant pas accès au système financier, on voit que se mettent en place des groupes d'épargne et de crédit. En gros, ça fonctionne comme ça. Des petits groupes de 20 femmes économisent comme elles peuvent, chacun selon ses moyens, et mettent en commun pour s'octroyer un projet aux unes aux autres, par des prêts, pour développer un petit commerce, acheter des poules, etc. Et avec l'argent épargné, ils ont les moyens de nourrir leurs enfants, de les envoyer à l'école, d'acheter un vélo ou une moto. Quelle fierté! Et les témoignages sont unanimes, hein, que ce soit en République démocratique du Congo ou au Burkina Faso, par exemple. Grâce au groupe d'épargne du crédit, ces femmes retrouvent confiance en elles. Elles se sentent fortes et autonomes, et les maris les considèrent désormais comme des partenaires. À la maison et comme au village, on écoute davantage désormais leur avis. Mieux que cela, grâce à ce petit pécule, elles deviennent plus solvables et crédibles aux yeux des systèmes financiers formels et peuvent même espérer un jour ouvrir un compte bancaire. C'est comme au saut en hauteur, il faut une bonne impulsion. Une petite impulsion associée à une bonne dose d'amour du prochain. Pour donner aux plus pauvres l'espoir de jours meilleurs où ils pourront s'en sortir par eux-mêmes. Prions. Seigneur, tu t'es fait pauvre. Tu disais de toi-même, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Tu t'es dépouillé de tout, ultimement à la croix. Pour que par ta pauvreté, ton amour soit aimé et enrichi. Que nous ayons une espérance. Que tu ouvres une espérance pour une nouvelle vie, pour des recommencements, par le salut que tu as inauguré à la croix. Aide-nous à être porteurs de cette espérance, de cet amour, pour avoir ce regard que tu avais sur le pauvre. Aide-nous encore à changer de regard et pardonne-nous. Pardonne parfois, bien souvent, notre indifférence. Remplis-nous de ton amour et que nous soyons porteurs de ta lumière en ce temps de Noël. Amen.
Merci Jean-Marc. Est-ce que vous avez encore un